RFI, il est 14h10 à Paris, c'est l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques présenté par Anne Verdaguer. Bonjour Anne.
Bonjour Chantal et bienvenue à tous. Ce chiffre tout d'abord, entre 2 et 4 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays ces dernières années. La crise économique, politique et sociale a des conséquences dramatiques en termes de mortalité et les habitants ont du mal à satisfaire leurs besoins les plus basiques comme s'alimenter ou se soigner. On entendra l'économiste israélo-vénézuélien Dani Bahar parler de cette crise humanitaire la plus importante au monde, selon lui, une crise dont on n'a pas encore saisi l'ampleur. Dans la revue de presse des Amériques, on évoquera toujours au Venezuela l'organisation de la prochaine élection présidentielle. Nicolas Maduro cherche un adversaire à sa hauteur. C'était aujourd'hui la date limite pour s'inscrire officiellement auprès du Conseil national électoral. Et on a appris la candidature non officielle d'un ancien chaviste. On verra avec vous, Stéphanie Schuller, si cela fait les affaires du président Maduro. Notre rendez-vous avec Alter Presse et on dressera le bilan de la CARICOM, la réunion de la communauté des Caraïbes consacrée à la lutte contre les changements climatiques. Ce sera avec Godson Pierre. On part donc au Venezuela. Le pays, je vous le disais, fait face à une situation sans précédent. En plus de la crise économique, sociale et politique que les habitants subissent depuis 2014, le pays fait désormais face à une crise humanitaire et la pénurie est partout. Alimentation, médicaments, pièces de rechange et même les plus basiques besoins comme le papier toilette manquent. Une situation qui incite chaque jour des milliers de Vénézuéliens à fuir le pays. Il serait ainsi 580 000 à avoir rejoint la Colombie de manière légale. Un chiffre qui pourrait dépasser le 1,5 million si l'on prend en compte ceux qui entrent illégalement. Dani Bahar est un économiste israélo-vénézuélien à la Brookings Institution, un think tank américain. Il est l'auteur de plusieurs articles sur cette crise. Romain Lemaresqui l'a interrogé sur l'exode inquiétant des Vénézuéliens et les conséquences de cette crise humanitaire.
Il est difficile de savoir combien de personnes sont parties parce que le gouvernement vénézuélien ne fait aucun effort pour le calculer. Et puis, il faut prendre aussi en compte le fait que beaucoup de ces personnes ont franchi les frontières colombiennes et brésiliennes de manière illégale. L'une des principales raisons, c'est que ces gens n'ont pas de passeport. La crise est si grave au Venezuela qu'il est aujourd'hui impossible d'obtenir un passeport parce qu'il n'y a plus de papier. Il y a plein de gens qui n'ont tout simplement aucun papier d'identité. Mais pour revenir aux chiffres, il y a plusieurs estimations qui circulent. Certaines parlent de 2 millions de personnes qui seraient parties, d'autres de 4 millions. Si l'on prend en compte le fait que ce pays compte 30 millions d'habitants, cela représente environ 10% de la population, ce qui est un chiffre très important.
La crise humanitaire que connaît ce pays est une situation à laquelle ce continent n'a jamais été confronté.
Ce n'est pas seulement une situation que ce continent n'a jamais connue. Selon moi, c'est peut-être même la pire crise humanitaire que connaît le monde à l'heure actuelle. Si l'on compare à d'autres crises dans le monde, au Yémen, en Birmanie ou en Syrie par exemple, je pense que le Venezuela, s'il n'est pas en tête de liste, ne va pas tarder à l'être. C'est une crise terrible, humanitaire, qui est la conséquence des mauvaises politiques mises en place par ce gouvernement et les gouvernements antérieurs.
Concrètement, comment se traduit cette crise ?
Par exemple, la mortalité infantile s'élève à 2 enfants sur 100. Il y a seulement 5 ans, ce chiffre s'élevait à 2 sur 1000 enfants, ce qui signifie que la mortalité infantile a été multipliée par 100. La pauvreté touche 87% des habitants, ce qui dépasse les chiffres de 1999, lorsque Hugo Chavez est arrivé au pouvoir. Il y a des gens qui meurent de maladies qui sont pourtant facilement soignables, parce qu'il n'y a pas d'antibiotiques dans le pays. Il n'y a pas d'argent pour importer des médicaments. Et il y a également le thème de la malnutrition. Près de 75% de la population a perdu en moyenne 10 kilos. Donc, nous parlons d'une crise d'une forte magnitude. Une crise dont le reste du monde n'a pas encore saisi la profondeur. Il y a un chiffre très intéressant pour donner une idée de la situation. Aujourd'hui, le salaire minimum au Venezuela te permet d'acheter moins de 10 000 calories. Une famille qui a 1 ou 2 enfants ne peut pas s'alimenter. Et si l'on rajoute le problème de l'hyperinflation, l'inflation et de la baisse du pouvoir d'achat que cela implique, ce sont toutes ces raisons qui poussent les gens à quitter le pays. C'est une question de survie.
L'économiste israélo-vénézuélien Dani Bahar au micro de Romain Lemaresquier. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Comme le disait à l'instant Dani Bahar, entre 2 et 4 millions de Vénézuéliens ont déjà fui le pays. Sur un plan purement politique, cela veut dire que l'immense majorité d'entre eux ne pourra pas voter lors de l'élection présidentielle du printemps prochain. Une épine dans le pied de l'opposition, c'est ce que rapporte la presse vénézuélienne aujourd'hui.
Absolument, selon le journal El Nacional, le CNE, le Conseil National Électoral du Venezuela, a annoncé hier que seuls 107 000 Vénézuéliens vivant à l'étranger seront autorisés à participer à la présidentielle. Or, différentes organisations non gouvernementales estiment le nombre de Vénézuéliens en âge de voter, mais ayant quitté leur pays en raison de la grave crise humanitaire, à au moins 1,5 million. Mais le CNE a expliqué avoir uniquement accepté l'enregistrement de ceux qui ont leur résidence légale dans un autre pays. L'opposition, elle, avait exigé que tous les électeurs vénézuéliens potentiels puissent exprimer leur choix lors de l'élection présidentielle.
Et d'ailleurs, Stéphanie, c'est aujourd'hui la date limite d'inscription pour les potentiels candidats à cette élection présidentielle auprès du Conseil national électoral.
Et Nicolas Maduro se rendra ce mardi au siège de l'autorité électorale pour officialiser sa candidature, rapporte Ultimas Noticias, qui annonce que le chef de l'État sera pour l'occasion entouré de ses sympathisants. D'après le quotidien 2001, aucun candidat de la MUD ne s'est présenté en cette première journée d'inscription officielle, fidèle à l'annonce de la coalition de l'opposition de ne pas participer à la présidentielle, sauf si les conditions du scrutin changeaient.
Et justement, on apprend aujourd'hui que les négociations entre la coalition d'opposition, la MUD, et le gouvernement continuent.
Oui, selon les informations d'El Nacional, des réunions ont débuté vendredi dernier. L'opposition exige que la date de l'élection présidentielle, actuellement prévue le 22 avril, soit repoussée à juillet et que des garanties pour la tenue d'un scrutin libre et transparent soient apportées par le pouvoir en place, comme notamment la présence d'observateurs internationaux. Le gouvernement, de son côté, s'est dit prêt à étudier la possibilité de repousser la date de la présidentielle au 20 mai, mais pas au-delà.
Alors finalement, pourquoi l'équipe du président vénézuélien, Nicolas Maduro, continue-t-elle de négocier avec l'opposition ?
Eh bien, à en croire le journal argentin La Nación, le président sortant, candidat à sa réélection donc, se cherche désespérément un adversaire valable pour rendre cette présidentielle crédible aux yeux des Vénézuéliens, mais aussi et surtout devant la communauté internationale. Cet adversaire pourrait être Henry Falcón, ancien gouverneur déçu du chavisme et qui avait coordonné la campagne du candidat de l'opposition Enrique Capriles lors de la dernière présidentielle en 2013. Henry Falcón aurait effectué sa préinscription au scrutin par internet, rapporte 2001, mais ne s'est pas présenté hier au siège du Conseil national électoral pour valider sa candidature. Cela étant dit, l'information officieuse selon laquelle Henry Falcón maintient ainsi une porte ouverte à son éventuelle participation à la présidentielle a suffi pour tirer la sonnette d'alarme au sein de la MUD dont l'ex-gouverneur fait partie.
Direction l'Argentine à présent, Stéphanie, où un seul sujet fait les grands titres aujourd'hui, le droit à l'avortement.
Et pour cause, Anne, puisqu'hier, Mauricio Macri, pourtant président de droite, qui s'est jusqu'à présent toujours exprimé contre le droit des femmes à l'IVG, a créé la surprise. Il a donné son feu vert à un débat au Parlement sur ce sujet qui reste extrêmement polémique en Argentine. Je suis favorable à la vie, mais je n'impose mon opinion à personne. Il doit y avoir la liberté de conscience, a déclaré le chef de l'État, cité par Clarín. Le Parlement argentin se réunira donc en session extraordinaire le 8 mars, journée internationale de la femme. Mais les débats sur le texte de loi, proposé par une coalition d'associations qui s'appelle Campagne nationale pour le droit à l'avortement sûr, légal et gratuit, ces débats donc ne vont probablement pas commencer tout de suite, croit savoir La Nation. Les défenseurs de la légalisation de l'IVG au Parlement souhaitent d'abord travailler en commission pour s'accorder sur un nouveau texte.
Et le simple fait d'obtenir une action parlementaire semble déjà représenter une victoire pour des milliers de femmes argentines.
Absolument, elles avaient encore manifesté en début de semaine dernière, souvenez-vous, soulignant que chaque année, près de 500 000 femmes du pays avaient recours à un avortement clandestin, souvent suivi de complications dramatiques. Actuellement, l'avortement en Argentine n'est autorisé qu'en cas de viol ou de risque pour la vie de la mère.
Si les défenseurs du droit à l'IVG l'IVG se réjouit, Stéphanie, ses adversaires comptent également faire entendre leur voix.
Oui, le quotidien El Litoral constate que sur les réseaux sociaux, la polémique prend de l'ampleur. Des parlementaires anti-IVG font savoir qu'ils ne voteront pas une loi qui permettra de dépenser l'argent du contribuable pour tuer des enfants. Les marches des adversaires de l'avortement sont également prévues dans les jours à venir.
Et pour finir, on part en Colombie avec cette attaque contre un convoi.
Oui, 5 soldats ont été tués et 10 autres blessés lors de cette attaque ce matin contre un convoi militaire dans une zone rurale de l'état de Norte de Santander, non loin de la frontière vénézuélienne, rapporte El Tiempo. 2 bombes artisanales ont explosé à 1h du matin lors du passage de 4 camions de l'armée colombienne.
Et connaît-on les commanditaires ?
Eh bien, pour les autorités, en tout cas, il n'y a aucun doute, Anne, il s'agit là d'un nouvel attentat de l'ELN, la dernière guérilla encore active en Colombie, explique El Espectador. Nous condamnons ces actions lâches et injustifiées de l'ELN qui, incapable d'affronter l'armée, emploie des méthodes de guerre non conventionnelles, prohibées par le droit international et qui mettent en péril non seulement la vie de nos soldats, mais également celle des populations civiles qui vivent dans les zones concernées, a déclaré le gouvernement dans un premier communiqué ce matin.
À suivre dans nos prochaines éditions. Merci Stéphanie Schuller.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
L'actualité en Haïti avec Godson Pierre, fondateur d'Alter Press. Bonjour.
Bonjour.
À la une, la fin aujourd'hui de la CARICOM, la réunion de la communauté des Caraïbes, consacrée cette année à la lutte contre les changements climatiques.
Cette réunion est l'occasion pour les dirigeants des États membres de se pencher particulièrement sur la gestion des désastres et les changements climatiques. La lutte contre les changements climatiques sera cruciale pendant les prochaines années pour Haïti. C'est ce que déclare le président Jovenel Moïse à la tribune de l'Assemblée. Haïti assume la présidence de la CARICOM dans un contexte très spécial où la région a connu un nombre élevé de phénomènes atmosphériques extrêmes provoqués par le réchauffement climatique, avance-t-il. On a vu en effet durant les 2 dernières années la multiplication de catastrophes causées par les ouragans dans la Caraïbe, y compris en Haïti. L'une des options pour contrecarrer les conséquences néfastes de ces événements adverses consiste à renforcer les mécanismes de financement existants relatifs aux risques de catastrophes. C'est ce qu'affirme Jovenel Moïse. De son côté, le secrétaire général de la CARICOM, Erwin Larocque, appelle les acteurs à travailler ensemble pour créer une communauté plus résiliente au changement climatique. Les échanges portent également sur la sécurité au niveau des Caraïbes, les problèmes des télécommunications et le tourisme dans la région.
Cette réunion de la communauté des Caraïbes se passe donc sur 2 jours à Port-au-Prince. 14 délégations ont fait le déplacement, mais pour Haïti, le bilan n'est pas vraiment positif, Godson.
Cet événement n'aura pas de grandes retombées économiques pour Haïti parce que le gouvernement haïtien n'a pas suffisamment travaillé à sa préparation. Cette position a été exprimée par le responsable du comité exécutif régional de l'Assemblée des peuples de la Caraïbe, l'économiste Camille Chalmers, lors d'une conférence de presse. Il déplore le fait que le gouvernement n'a pas su définir une stratégie nationale pour l'organisation de cet événement. S'exprimant lors de la même conférence, le coordonnateur du collectif Défenseur Plus, Antonal Mortimer, critique une absence de transparence et de communication au niveau de la CARICOM. Il ne comprend pas, par exemple, pourquoi le thème de la migration, très important dans toute la région, n'est pas abordé.
Également à la une en Haïti, le nouveau programme du FMI approuvé dimanche par le gouvernement et qui pourrait bien avoir des conséquences sociales non négligeables.
Ce programme que vient d'approuver le gouvernement haïtien prévoit l'élimination de la subvention des produits pétroliers et de l'électricité, ce qui aura des effets sur le coût de la vie et provoquera des mécontentements selon l'économiste Eddy Labossière. L'élimination des subventions aura un coût social pour la population car le prix des produits pétroliers à la pompe augmentera de toute façon, prévoit l'économiste. Le programme du FMI se justifie quand même par une faiblesse des recettes et un niveau trop élevé des dépenses de l'État, souligne le professeur d'économie. Le gouvernement fait du mauvais social en subventionnant l'essence et l'électricité, alors qu'il aurait pu trouver d'autres formules pour agir sur le pouvoir d'achat des ménages, estime-t-il. Durant les 4 premiers mois de l'exercice fiscal, un déficit budgétaire de 10 milliards de gourdes a été enregistré. L'inflation est de 14%.
Merci Godson Pierre. On vous retrouve mardi prochain sur RFI. Et on reste dans les Caraïbes avec votre rendez-vous avec l'actualité des Outre-mer. Le journal de la première vous est présenté par Benoît Ferrand. Bonjour.
Bonjour Anne.
Et à la une, des salariés martiniquais qui sacrifient leur RTT au profit des sinistrés de la Dominique.
Oui, la Dominique, c'est cette petite île de l'arc antillais, île indépendante, située juste à mi-chemin entre la Guadeloupe au nord et la Martinique au sud. La Dominique a été durement touchée il y a 5 mois par le passage de l'ouragan Irma et ses moyens de reconstruction sont limités, d'où cette étonnante opération de solidarité menée à l'initiative de l'association Contact Entreprises. Reportage La Première Martinique, Pierre-Yves Honoré.
La solidarité peut prendre différentes formes. Il y a ceux qui donnent des denrées alimentaires, et puis ces salariés, ils ont accepté de sacrifier une ou deux journées de RTT ou de congé pour venir en aide à la Dominique après le passage de l'ouragan Irma. Emmanuel de Rénal, de Contact Entreprises.
Les résultats sont largement à la hauteur de nos attentes, puisque 200 000 euros, c'est un peu plus que ce qu'a pu réunir le Téléthon, par exemple, en Martinique. Donc nous sommes réellement dans des volumes importants. On estime aujourd'hui qu'un peu plus de 300 salariés ont répondu à l'appel.
Des salariés issus de 40 entreprises antillo-guyanaises. Financièrement, la valeur de ces jours de repos représente la somme de 200 000 euros. Ce budget sera alloué à l'architecte de l'urgence. L'ONG va réhabiliter 2 écoles de zones particulièrement enclavées en utilisant la main-d'œuvre locale. Serge Guinaud, architecte.
Nous imaginons que celui qui travaille sur l'école, c'est l'école où ses enfants vont en classe. Donc, en même temps qu'il reconstruit l'école, qu'il reconstruit la vie de ses enfants, le salaire qu'il touche lui permet aussi, lui, de se reconstruire et de stabiliser les revenus de son foyer.
Grâce à cette action de solidarité pour le moins original, 180 élèves vont bientôt retrouver le chemin de l'école.
Nous vous en parlions hier, la qualité des eaux douces de la basse-terre de la Guadeloupe serait plus qu'inquiétante. On y retrouverait glyphosate, chlordécone et toute une panoplie, si l'on peut dire, de produits phytosanitaires auxquels il faut ajouter les antibiotiques ou encore des stéroïdes. C'est ce que révèle le dernier rapport de l'Office de l'eau guadeloupéen pour l'année 2016. Et pourtant, l'Agence régionale de santé se veut rassurante et affirme que l'eau qui arrive au robinet est parfaitement potable. Didier Roux est le responsable du service santé et environnement à l'ARS de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Nous avons doublé le programme de surveillance des eaux qui sont susceptibles d'avoir des produits de traitement, donc pesticides, etc., y compris la chlordécone. Il faut savoir que l'eau, c'est quand même le produit alimentaire le plus contrôlé. Quand vous avez l'eau qui arrive dans votre verre, elle a subi en amont 560 paramètres qui ont été examinés. Donc l'eau, c'est vraiment un produit qui est examiné à la loupe et tout le temps. À 560 paramètres, ça fait énorme. On n'a pas les mêmes recherches que ce soit sur d'autres produits alimentaires. Je pense aux huiles, au beurre, au lait, etc.
Bon après-midi, Marie, Anne. À demain.
À demain. Merci Benoît Ferrand et une très bonne journée à vous. On termine en musique avec cette compilation regroupant plusieurs artistes des Caraïbes. Maizouk, c'est le titre de cette compile. On écoute un extrait, Véronica, avec Ultima Vez.
It just feels so weird to realize, baby, that you and I, our story comes to an end, baby. Just a game and I will leave it. Joy I had with you, to be loved by you.
fin de votre rendez-vous Haïti et les Amériques. Merci à Jonathan Brody, à la réalisation. Retrouvez-nous sur internet www.rfi.fr. Dans un instant, c'est le retour de l'info avec Chantal Leroux.